Avec un peu d'avance, les informations avec vous Antoine, merci, bonsoir.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Le second point de presse du procureur de la République, François Molins, sur l'attentat de Nice tout à l'heure. Il confirme le caractère prémédité de l'opération et apporte aussi des indices d'une récente radicalisation du meurtrier. Nous l'entendrons ainsi que les précisions de Thomas Schoner. Sur la promenade des Anglais, le cortège officiel mené par Manuel Valls, hué ce midi par un groupe de personnes rassemblées en face du lieu de la cérémonie. Les sifflets et les insultes sont indignes dans une cérémonie de recueillement, réagit le Premier ministre en quête de Violette Voldoire. Les arrestations, les limogeages se multiplient en Turquie 3 jours après le coup d'État manqué. Ankara promet toutefois de respecter l'État de droit. Le gouvernement allemand déplore des scènes révoltantes d'arbitraire et de vengeance. Explication à Berlin de David Philippot. En Syrie, les quartiers qui sont contrôlés par les rebelles à Alep sont maintenant totalement assiégés par l'armée syrienne. Il y a plus de 200 000 habitants qui sont menacés de famine, de pénurie générale. Suivi de la situation avec Camille Revel. Et puis à Cleveland, le Parti républicain ouvre à l'instant sa convention qui va investir Donald Trump pour la présidentielle. Correspondance dans cette édition avec Frédéric Carbone. Dans le grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Politique et finances, les liaisons dangereuses, on en parle avec les économistes Gisabelle Coupé-Soubéran, Olivier Babot et le sociologue Sylvain Laurence.
Le procureur de Paris, François Molins, à la tête du parquet antiterroriste, saisi de l'enquête sur les attentats, l'attentat de Nice, vient donc de faire un second point sur les avancées des investigations. Il confirme le caractère prémédité donc de l'opération et il apporte aussi, vous allez l'entendre, des indices d'une récente radicalisation du tueur. François Molins, il y a maintenant un peu plus d'une heure, faisait donc ses déclarations.
L'exploitation de son ordinateur a également révélé d'autres recherches sur Internet. Recherches concernant tout d'abord des vidéos de sourates du Coran et des recherches sur les anachides, des chants religieux que les organisations terroristes djihadistes, et notamment Daesh, utilisent comme outil de propagande. Ont également été retrouvées des photos de Ben Laden et de Mokhtar Belmokhtar. Si aucun élément de l'enquête ne démontre à ce stade une allégeance de Mohamed Lawesh Boulel à l'organisation terroriste, l'exploitation de son ordinateur illustre, on peut le dire, un intérêt certain et à ce stade des investigations récents pour la mouvance djihadiste radicale. La douloureuse actualité de ces derniers mois montre que les attaques terroristes émanent soit de commandos ou de cellules qui commettent des attentats planifiés depuis la zone irako-syrienne, soit d'individus qui obéissent aux messages d'appel au meurtre permanent et par tout moyen des organisations terroristes qui font de la France une cible privilégiée dans ce que je pourrais qualifier de terrorisme de proximité. C'est cette idéologie fanatique et mortifère qui peut conduire certains individus à passer à l'acte en France sans avoir besoin de se rendre en Syrie et sans avoir besoin d'instructions précises émanant des organisations terroristes pour passer à l'acte.
Thomas Schoner, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, il y a plusieurs séries d'informations dans ce que vient de dire à l'instant François Molins. On commence peut-être d'abord par la confirmation du caractère qui était bien prémédité de l'opération.
Oui, on savait que Mohamed Lawesh Boulel s'était préparé bien en amont. On savait par exemple que le camion avait été réservé dès le 4 juillet. Mais François Molins donne plus de détails sur la préparation de l'attentat et notamment sur le terrain. Plusieurs selfies ont été retrouvées sur le portable du terroriste, des clichés pris sur la promenade des Anglais le 12 juillet, le 14 juillet, le jour même de l'attentat. Ces photos ne prouvent pas nécessairement la préméditation. Mais le procureur de Paris y ajoute les informations recueillies grâce aux caméras de vidéosurveillance. Le soir de l'attentat, c'était en fait la troisième fois que le chauffeur-livreur faisait le trajet dans son semi-remorque. Il est venu faire des repérages la veille et le 12 juillet, il s'est même arrêté dans son camion, donc en allumant ses warnings devant l'hôtel Negresco, là même où le soir du 14 juillet, il a échangé des tirs avec 3 policiers. Grâce à l'historique de son navigateur internet, les enquêteurs ont également appris que Lawesh Boulel s'était renseigné sur les festivités du 14 juillet à Nice. François Molins suggère également que le terroriste cherchait de l'argent le jour de l'attentat. Il a tenté de retirer 1000 euros. Le 28 juin dernier, il aurait également tenté de contracter un prêt à la consommation là, de 5000 euros, un prêt qui lui a été refusé.
Plus nouveau et très attendu, des précisions maintenant sur les indices d'une radicalisation qui semble avoir été très récente. Le procureur parle d'un certain intérêt, mais récent, pour la mouvance islamiste radicale.
Oui, depuis 4 jours, Mohamed Lawesh Boulel est décrit comme un homme violent, sans attache religieuse, amateur d'alcool, de drogue et de sexe. Mais là aussi, les données informatiques ont parlé. On a entendu François Molins. Entre le 1er juillet et le 13 juillet, le terroriste a effectué des recherches quasi quotidiennes, des recherches sur les anachides, par exemple, les champs de propagande de Daesh. Laouesh Boulel s'est aussi renseigné sur les attentats d'Orlando, de Magnanville, sur la tuerie de Dallas également, où 5 policiers ont été tués. Quant aux photos retrouvées sur son ordinateur, on y retrouve ce mélange de violence et d'islam radical, avec des clichés de combattants arborant le drapeau de l'État islamique, des clichés de cadavres ou encore des couvertures de Charlie Hebdo. Un témoignage rapporté par François Molin s'évoque aussi la barbe que se laissait pousser Laouesh Boulel depuis 8 jours, une barbe à signification religieuse selon ce témoin. Daesh a revendiqué samedi l'attentat de Nice. L'organisation a reconnu en Laouesh Boulel un de ses soldats, mais François Molin l'a confirmé cet après-midi. Au-delà d'un intérêt, rien dans l'enquête ne montre pour le moment une allégeance de Laouesh Boulel aux djihadistes de l'État islamique et encore moins une prise de contact.
Thomas Schoner, merci beaucoup. Une minute de silence a donc été observée aujourd'hui à midi partout en France. Sur la promenade des Anglais, le cortège officiel conduit par le Premier ministre Manuel Valls a été hué par un groupe de personnes rassemblées en face du lieu de la cérémonie. Les sifflets, les insultes sont indignes dans ce genre de cérémonie de recueillement, affirme le Premier ministre ce soir. Pour le vice-président des Républicains de la région PACA, Philippe Tabarot, ces huées n'auraient pas été spontanées. Il y avait, selon son expression, une petite bande aux abords qui était clairement identifiée. Front National, bonjour Violette Voldoir.
Bonjour.
Alors pendant que les ténors des Républicains continuent de critiquer la politique antiterroriste du gouvernement, le Front National, lui, paraît prêt à exploiter discrètement la colère d'une partie de l'opposition.
Oui, alors ces huées ont-elles été orchestrées par le Front National ? Pour l'instant, rien ne permet de l'affirmer. Seule une photographie prise dans la manifestation et postée sur les réseaux sociaux montre une personne brandissant une pancarte avec le slogan UMPS, qui est clairement un vocabulaire du Front National. Pour autant, même si ces huées n'ont pas été orchestrées, elles ont produit une image forte. L'image d'un Premier ministre et d'un maire adjoint, Christian Estrosi, cible d'une colère populaire, du moins en apparence. Et cette image sert les intérêts du Front National, localement d'abord. Et cela, Marion Maréchal Le Pen, députée frontiste, et elle-même parmi les personnalités présentes à la minute de silence, ne s'y est pas trompée puisqu'elle n'a pas manqué de retweeter immédiatement la vidéo de ces sifflets. Des sifflets auxquels Philippe Vardon, figure du mouvement identitaire Nissa Rebella, investi comme conseiller régional Front National, nie avoir participé, bien qu'il ait été physiquement proche d'un petit groupe, de ce petit groupe de siffleurs pendant l'hommage, d'après plusieurs témoignages. « Je ne sais pas siffler », a-t-il déclaré avec un trait d'humour à nos confrères de l'AFP. Mais tous deux tirent savamment parti de la colère des Niçois et tous deux ont également un agenda politique, les élections législatives de 2017. Et puis au plan national, le Front National tire bien sûr parti de cette image de colère savamment instrumentalisée. Dès dimanche, le secrétaire national aux fédérations frontistes, Jeanlin Lacapelle, parlait d'une explosion des adhésions depuis l'attentat, une affirmation qui a pour objectif de faire penser que les Français qui en veulent au gouvernement après cet attentat de Nice se tourneraient comme un seul homme vers le Front National.
Violette Voldoir, merci. À l'adresse de l'opposition de droite ce matin, François Hollande invoquait une obligation de dignité, de vérité pour ceux qui ont une parole publique. Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite, accuse ce soir le chef de l'État de mettre en place un écran de fumée par ses mises en cause de l'opposition à la suite de cet attentat de Nice. Pourquoi une telle violence dès lors que l'on se permet de soulever quelques questions qui méritent d'être soulevées, affirme l'ancien Premier ministre donc Alain Juppé. 3 jours après le coup d'État manqué en Turquie, les arrestations se sont multipliées aujourd'hui. On parle de plus de 7 500 personnes qui ont été placées en garde à vue. Le Premier ministre promet toutefois de respecter l'État de droit. L'Union européenne et les États-Unis appellent la Turquie à respecter cet État de droit. Le chef de la diplomatie européenne avertit même que la réintroduction de la peine de mort bloquerait toute perspective d'adhésion d'Ankara. Et puis le gouvernement allemand est allé un peu plus loin. Il déplore, je cite, des scènes révoltantes d'arbitraire, de vengeance qui serait survenue en Turquie à l'encontre de soldats soupçonnés d'avoir participé au putsch manqué. Comment expliquer cette réaction allemande ? La correspondance à Berlin de David Philippot.
Eh bien, en politique étrangère, le gouvernement allemand fait souvent référence aux droits de l'homme. Angela Merkel fait régulièrement la leçon aux Chinois sur le Tibet. Et ce sont aussi des considérations humanitaires, et pas seulement économiques, qui avaient justifié sa décision d'ouvrir ses portes aux réfugiés. Dans cette tentative de putsch, elle a, après avoir fermement condamné le coup des militaires, mis en garde Ankara.
Le traitement des responsables des événements tragiques de la nuit dernière ne peut et ne devrait se faire qu'au terme des règles de l'état de droit. Le bain de sang en Turquie doit cesser.
L'Allemagne suit de très près l'évolution de la situation en Turquie, d'abord en raison des conséquences que cela pourrait avoir pour l'accord sur les réfugiés, un accord que la chancelière avait négocié directement avec le président Erdogan. Ensuite, parce que c'est en Allemagne qu'il y a la plus forte communauté turque hors de Turquie, avec plus de 3 millions de ressortissants, et Berlin craint l'importation des tensions sur son sol. Il y a eu de nombreuses manifestations pendant le week-end, et aux dernières élections, en novembre 2015, presque 60% des Turcs d'Allemagne avaient voté pour Erdogan.
Le président syrien Bachar el-Assad est-il en passe d'atteindre son objectif de reprendre le contrôle de la plus grande partie de la Syrie dite utile? En tout cas, l'armée syrienne assiège maintenant complètement les quartiers rebelles de la ville d'Alep. Elle a pris le contrôle de la dernière route qui les ravitaillait, faisant craindre un désastre humanitaire. Les risques de famine, de pénurie générale s'accroîtraient pour les quelques 300 000 habitants de ces quartiers qui sont désormais totalement assiégés donc par l'armée syrienne. Camille Revel.
Et la bataille d'Alep dure depuis 4 ans, depuis juillet 2012, avec une ville scindée en deux. À l'ouest, les quartiers aux mains des forces loyalistes et à l'est, les secteurs tenus par les rebelles. Parmi ces rebelles, des milices de quartier, des groupes locaux, mais aussi le front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Le groupe État islamique lui a été chassé d'Alep il y a plus de 2 ans. Après des semaines de combats, il ne restait qu'une seule voie aux rebelles pour faire entrer des hommes, des armes et des vivres. La route dite du Castello s'est terminée. Ce week-end, les forces loyalistes ont pris le contrôle de cette route. Cet encerclement, c'est une victoire pour Bachar el-Assad, mais aussi pour ses soutiens, la Russie, le Hezbollah, les milices kurdes. Les rebelles se retrouvent privés d'approvisionnement dans une situation militaire très difficile. Et puis Alep est un symbole, l'un des bastions de la rébellion depuis le début de la guerre en Syrie. Mais cet encerclement fait surtout craindre, vous le disiez, un désastre humanitaire, une famine. Près de 300 000 personnes vivent dans ces quartiers rebelles, selon l'ONU, qui appelle à autoriser la livraison de l'aide humanitaire et l'évacuation des civils des zones assiégées. Avant même la prise de contrôle de la route du Castello, les prix flambaient déjà dans ces quartiers d'Alep, avec des boulangeries fermées. À ces pénuries s'ajoutent les bombardements. Ils s'intensifient ces dernières semaines sur Alep.
Camille Revel, merci. Par ailleurs, une vingtaine de civils au moins auraient péri dans des raids aériens de la coalition dirigée par Washington sur le fief du groupe islamique à Minbej et à ses environs, c'est dans le nord de la Syrie. Nous sommes 10 jours après l'assassinat de 5 policiers à Dallas au Texas. 3 policiers ont été à nouveau tués hier à Baton Rouge en Louisiane par un ancien combattant du conflit irakien qui dit appartenir à une nation afro-américaine, et son profil, Willie Moreau, fait penser à celui des tueurs de Dallas.
Oui, ils sont tous les deux jeunes, anciens soldats afro-américains luttant pour la défense des Noirs, et tous les deux cherchaient à tuer des policiers. Première conclusion de l'enquête en cours, selon un porte-parole de la police de l'État de Louisiane, Gavin Long aurait tendu une embuscade aux policiers alertés de la présence d'un homme armé près d'une zone commerciale. Nous essayons de trouver son motif, a rajouté ce porte-parole, comme pour Micah Johnson, le tueur de Dallas, mais tout laisse à penser que ce crime était motivé par une haine anti-blanc, malgré le décès d'un officier noir, Montrell Jackson. D'abord, Gavin Long se revendiquait de la Nation Washito, un groupe afro-américain affirmant être une nation souveraine au même titre que les Amérindiens. Pour cela, il avait changé son nom et se faisait appeler désormais Cosmo Stepenra. Ensuite, il s'est réjoui de la tuerie de Dallas. Le tueur n'est pas blanc, il est un des nôtres, affirmait-il sur Twitter. Internet, enfin, lieu d'expression anti-blanc pour l'ancien Marines. Sur YouTube, il évoquait des brutalités visant les Noirs et donne des conseils sur comment gérer le harcèlement. Message plus vindicatif sur Twitter où il appelle carrément à la violence. Pour l'instant, l'enquête progresse pas à pas. Les enquêteurs, eux, poursuivent leurs interrogatoires. Ils veulent savoir pourquoi Gavin Long s'est rendu à Baton Rouge alors qu'il habitait à Kansas City à plus de 1000 km. Baton Rouge qui, au début du mois, connaissait de vives manifestations. Un homme noir avait été abattu par 2 policiers blancs.
Willie Moreau, merci. Et pendant ce temps, à Cleveland s'ouvre la convention du Parti républicain qui doit formellement investir Donald Trump comme candidat à la Maison-Blanche. La Commission européenne débloque une enveloppe de 500 millions d'euros pour soutenir les agriculteurs, plus particulièrement le secteur laitier où les prix sont minés, on le sait, par la surproduction. Des fonds qui vont être répartis suivant 2 programmes. 150 millions d'euros pour inciter à réduire la production de lait dans toute l'Union européenne. 350 millions qui seront distribués entre les États membres à leur choix. point, dans quelle mesure cette aide peut aider, en tout cas, à résoudre en partie la crise.
Eh bien, elle reste conjoncturelle, même si après une première enveloppe de 500 millions d'euros débloquée en septembre dernier, la Commission aura au total déboursé 1 milliard d'euros pour soutenir les producteurs en crise, soit peu ou prou le prix de la fin des quotas laitiers. Car en abandonnant cette politique de régulation du marché, l'Union européenne avait ouvert la porte à une surproduction prévisible dans un contexte où la demande en produits laitiers a nettement diminué, sous l'effet notamment de la baisse de la demande chinoise, et où la production mondiale de lait a au contraire nettement augmenté. Certains producteurs ayant même, en Europe, en prévision de la fin des quotas, investi dans des outils de traite plus performants et dans des races de vaches laitières plus productrices. Bref, depuis l'année dernière, la Commission se fait plus interventionniste que prévu. À la demande insistante des pays les plus touchés par cette crise de la surproduction, la France, l'Allemagne et la Pologne, une intervention qui, jusqu'à septembre dernier, se faisait sous la forme d'aides au stockage privé. Désormais, ce sont des aides plus spécifiques, mais qui dépendront du bon vouloir des producteurs. Ceux qui voudront réduire leur production seront aidés via des compensations financières, mais ceux qui au contraire voudront investir dans des méthodes de production plus extensives le seront aussi. Une logique toujours très libérale qui à long terme ne cache pas ses intentions, à savoir la disparition des producteurs les plus fragiles. On rappelle que le litre de lait est acheté en ce moment à 27 centimes d'euros, très loin de son coût de production, 34 centimes du litre.
Anne Lorchouin, merci. L'Agence mondiale antidopage appelle ce soir à l'exclusion de la Russie de tous les événements internationaux, y compris les Jeux olympiques de Rio, dans peu de temps maintenant. Appel qui fait suite à la publication du rapport McLaren qui démontre l'existence d'un système de dopage d'État lors des JO 2014 de Sochi. Et puis, il y aurait aussi des échantillons issus des contrôles antidopage réalisés pour les mondiaux 2013 d'athlétisme à Moscou qui auraient été aussi échangés. L'agence antidopage américaine dénonce le niveau hallucinant, je cite, de la corruption en Russie. Du soleil partout du matin au soir demain. La journée sera marquée par un pic de chaleur avec un total de 12 départements du centre, du centre-ouest, du sud-ouest, désormais placés par Météo France en vigilance orange canicule. Édition réalisée avec Jean-François Braun. Le prochain journal est à 22h avec Antoine Denecher.